Place à la musique des sphères, à la musique cosmique de Terry Riley à l'occasion de la parution du livre Terry Riley, figure libre de Jean-Louis Tacon qui vient tout juste de sortir.
Talon,
je ne sais pas pourquoi. Je voulais l'appeler Tacon. Aux éditions Le Mot et le Reste, sorti cet été en compagnie de mon vieux complice Eric Dehay. Salut Eric.
Salut Philippe, bonsoir. Les auditeurs.
Et donc Eric Dehay, du webzine Néosphère qui d'ailleurs s'est refait une beauté il y a de ça quelques semaines.
Début d'année, janvier, depuis cette année. J'ai refait le design, j'ai déménagé, c'est un nouvel hébergeur. Une de nouvelles chroniques, dont une sur un bouquin sur Quincy Jones et le cinéma, voilà.
Et puis bientôt une chronique de ce livre donc de Jean-Louis Tacon que tu vas proposer.
Oui, bientôt,
sur
ton
webzine. Les couleurs, c'est presque les couleurs du psychédélisme façon Lamont et Young et Terry Riley.
Ah, c'est vrai, oui, je n'ai pas pensé, les couleurs. Oui, c'est violette, orangé, oui, c'est vrai, oui.
Bon, est-ce qu'on te présente pour les auditeurs de l'Asile le plus sûr, peut-être un peu quand même, hein. Donc tu es auteur de 4 ouvrages à ce jour, donc aux éditions L'Homo et le Reste, donc Au-delà du rock, également l'underground musical en France, en compagnie de Dominique Grimaud, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute, et de deux...
Bonsoir Dominique.
Salut Grimaud. Et de 2 monographies aussi que tu as consacrées à Cannes et à Kraftwerk. Voilà, donc tu vas être gâté d'ailleurs avec Kraftwerk en concert cet été pour le festival de la route du rock. Et peut-être un livre en préparation. Est-ce qu'on en parle? Non, on voit peut-être qu'on parle.
Non.
Ok. On va plutôt...
Le Kraftwerk a été réédité l'an dernier et est disponible en librairie.
Avec une nouvelle couve.
Ouais, une belle couverture.
Qui flèche. Jean-Louis Talon, qu'on va peut-être présenter aussi rapidement aux auditeurs, donc qui est quelqu'un qui se consacre plutôt à la défense et à l'illustration des musiques contemporaines et innovatrices, on pourrait appeler ça comme ça, puisqu'il est auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un consacré à Meredith Monk, également à Gavin Bryars, et puis pas mal d'autres choses encore. Alors, je crois qu'il travaille dans une université, hein, c'est ça, je ne sais plus laquelle, mais est-ce que c'est Lyon, est-ce que c'est... je n'ai pas vérifié. Mais il a aussi sorti, il a sorti pas mal de bouquins et d'articles, et donc ce Terry Riley figure libre qui manquait au catalogue de l'éditeur marseillais Le Mot et le Reste. Donc on a décidé de consacrer 2 heures à la musique de Terry Riley, donc est-ce que ça va être suffisant? Je ne pense pas. Donc il a fallu faire des choix assez drastiques avec pas mal de pièces qu'il faudra aussi potentiellement un peu chanter, un peu écourter. On va commencer peut-être avec le grand œuvre de Monsieur Riley et sa pièce INSEE, qui est un peu le manifeste des musiques minimales répétitives, n'est-ce pas Eric?
Ouais, œuvre fondatrice de la tendance minimaliste répétitive, oui, carrément, qui a été créée en novembre 1964 avec pas mal de musiciens qui vont aussi se reconnaître dans le courant de la musique minimaliste, tels que Steve Reich, John Gibson, Paulino Liberos, Morton Subotnick aussi, enfin beaucoup de musiciens qui faisaient partie du San Francisco Tech Music Center pour la première version créée en novembre 64. Et qui est une pièce qui s'appelle INSEE, c'est-à-dire en do majeur. Et donc, est-ce qu'on se lance dans une explication?
Non, plutôt, juste parler d'une œuvre assez fondatrice, hein, qui a été maintes fois jouée par quantité d'orchestres. Donc, c'est vraiment une œuvre qui met en scène la liberté des interprètes, hein, parce que la partition tient sur une page.
C'est ça, oui.
C'est les motifs qui ont été, dessinés par le maestro Terry Riley. Donc, les 53. Si je ne m'abuse.
Ouais, 53 motifs à répéter par chaque musicien librement et autant de fois qu'ils le veulent. Enfin, ouais, une répétition et en même temps une forme de hasard aussi.
Chance Operation mélangé à autre chose, un petit côté aussi musique en expansion, un musique un poil cosmique aussi dans l'esprit, et vraiment une œuvre aussi assez joyeuse, je dois dire. Donc j'ai sélectionné une version de INSEE, ça fait un petit peu comme ça aussi par hasard, sans détermination, donc la version du 25e anniversaire de la pièce qui avait été enregistrée donc en 1980. Enfin, en tout cas, qui est sorti en 1995 avec tout un aréopage de musiciens. Je crois qu'il y en a quelques-uns d'ailleurs d'origine. Je me demande s'il n'y avait pas Ramon Sander également qui était de la partie. Je pense que Morton Subotnick devait plus être sur la planète Terre. Enfin, voilà. Et donc, pas mal de gens. Donc, 35 interprètes, je crois que c'est à peu près le quorum qui était souhaité par Terry Riley, même s'il y a eu des versions à 7, 8, 10 musiciens. On écoute donc le INSEE for Unspecified Performers, comme c'est sous-titré, donc cette pièce donc fondatrice de la musique minimale répétitive de Monsieur Terry Riley. Thank you. De cette version de INSEE pour donner pour le 25e anniversaire de sa création, donc puisque c'est une pièce qui date de 1964, et donc bah, c'est 64 plus 25, je vous laisse faire le décompte. C'était sorti dans les années 90, cette version, avec pas mal tout le wouzou en fait de la côte ouest et de la côte est des États-Unis dans cette version qui fait pas loin de 70 minutes. Voilà, INSEE for Unspecified Performers, avec ses petits patterns, ses riffs ou ses incursions à partir de ces motifs donc répétitifs inventés par Terry Riley. Une pièce qui lui est venue un petit peu comme une fulgurance, je crois, en rentrant, je pense, une nuit après avoir joué dans un club, en faisant un voyage de retour en pleine nuit dans un bus. Ah, est-ce que c'est ça l'inspiration, ou est-ce que c'est les drogues, on sait pas trop, mais avec Terry Riley. En tout cas, c'est ce qu'on apprend dans le livre Terry Riley, Figure libre, de Jean-Louis Talon. Et donc une pièce fondatrice, comme on disait, hein, puisque dans l'horizon de ces années-là de Terry Riley, avec les gens du Tape Music Center de San Francisco, il y avait aussi Steve Reich, qui était pas très très loin et qui avait écouté la pièce aussi, qui avait donné quelques indications aussi à son camarade Riley. Et donc on voit un petit peu l'affiliation avec tout ce qui a pu s'en suivre.
Puis dans l'ensemble, c'est dans l'histoire de la musique contemporaine, c'est un gros retour Chalon à la tonalité, alors que les modèles dominants, c'était quand même l'atonalisme, les descendances de dodecaphonisme, pas de mélodie, pas de tonalité, des pièces qui demeurent, qui peuvent être tout à fait écoutables et intéressantes, mais qui ne sont pas aussi, rythmiques à ce point-là, de toute façon.
Et pas consonantes.
Il pouvait y avoir beaucoup de travail sur les timbres, comme Stockhausen, par exemple, qui était très, très là-dedans, que c'est très beau aussi, mais c'est beaucoup moins accessible.
Oui.
C'est ce qui est le courant minimaliste avec Steve Reich, ensuite Philip Glass et donc Terry Riley, la Montaillon qui était moins dans une approche répétitive, plus sur les drones. Mais bon, c'est ces compositeurs-là qui ont lancé un retour à la tonalité, à une musique contemporaine.
Une volonté de se démarquer en fait de cette branche des musiques contemporaines, en tout cas de marquer une cassure effectivement par rapport à ces styles.
Et justement dans l'ouvrage de Jean-Louis Talon, il explique que justement Terry Riley lui-même vient de ce monde-là, de la musique, ce qu'on appelle le sérialisme en fait, pour les termes plus précis.
Il est allé à Darmstadt, il a fait un peu tout le parcours du combattant, si je puis dire, des jeunes gens de l'époque qui s'intéressaient aux musiques contemporaines et aux musiques innovatrices de leur temps. On peut peut-être d'ailleurs, puisqu'on va repartir un petit peu de la base, donc faire un petit peu son pedigree. Donc c'est quelqu'un qui a étudié pas mal la musique, enfin même s'il vient pas d'une famille de musiciens, c'est le premier musicien de sa famille. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié le piano et puis qui a commencé qui a entamé des études assez importantes dans le domaine des musiques classiques et contemporaine, du côté de San Francisco, notamment de l'UCLA. Et puis il a rencontré la Montaillon à la fin des années 50, avec lequel il a commencé à collaborer assez tôt, hein. Ils ont une vraie amitié très très forte qui continue d'ailleurs à ce jour.
C'est ça qui est, ouais, qui est assez étonnant, qui est bien mis en lumière par l'ouvrage de Jean-Louis Talon, c'est qu'en fait, Terry Riley est plutôt issu du milieu rural et pas une famille assez modeste, tout comme la Monte Young. Et rural et avec un imprégné, disons, de paysages, dans les grands espaces, proche de lignes ferroviaires, où la Monte Young, lui, la grande anecdote, c'est le fait qu'il était très très inspiré par les lignes à haute tension, les grésillements des lignes de tension, ouais, c'est ça, tout vient de là pour la Monte Young. Et voilà, on peut pas parler de musique ambiante, mais l'idée, c'est que voilà, il y a aussi un retour à la tonalité et aussi un retour à l'expression, ressenti par la musique, alors que c'était quelque chose que dans le sérialisme c'était plutôt rejeté. Là, c'est au contraire un retour ressenti par la musique. Et cette démarche là, c'est plutôt une démarche un peu de beatnik. Terry Riley et la Monte Young se rencontrent à l'université de Berkeley en 1959, et tout de suite se lient d'amitié parce qu'ils sont tous les deux des uluberlus qui font des choses qui sont assez peu conventionnelles dans le milieu de l'époque.
Y compris côté accoutrement.
Voilà.
Pour la Monte Young notamment.
Aussi.
Je crois qu'il y a une anecdote dans le livre qui est rapportée par Monsieur Talon que Riley a rencontré ce gars qui était celui qui était le plus fric en fait de sa promo, quoi. Et puis ils ont commencé à travailler avec notamment une compagnie de danse, celle de Dana Alprin, a commencé à bidouiller pas mal de choses. La Monte Young était lui pas mal fasciné aussi par l'esprit Fluxus. Beaucoup plus d'ailleurs que Terry Riley, qu'il a mis pas mal à profit dans ses pièces de la fin 50, début des années 60. Et puis après, leurs chemins se sont un peu séparés, enfin en tout cas géographiquement parlant. La Monte Young est vite montée, si je puis dire, à la grosse pomme. Il a fait le voyage vers New York et puis il est resté à New York. Il a dû s'établir, je pense, vers 63-64. Quelque chose comme ça. Donc leur collaboration, en tout cas à l'époque, elle a duré 3-4 ans. Ils ont quand même réussi à faire pas mal de pièces qui constituaient plutôt des collages sonores d'ailleurs, comme ça commençait à se faire sur bande magnétique à l'époque. Et Riley commence à expérimenter pas mal avec ses matériaux. On va pouvoir s'en rendre compte avec une pièce qu'il a enregistrée à Paris, puisque vers 1962,
vers 62-63, il était à Paris en fait. Il a même rencontré l'Australien David Allen,
qui lui a fait rencontrer Robert Wyatt aussi, paraît-il.
Les futurs fondateurs de Soft Machine, voilà, ont joué avec Terry Riley dans les années 62-63, et à la même pile, dans la même année, Terry Riley enregistrait le Music for the Gift, est un montage de sur bande magnétique
à partir de la trompette de Chet Baker. Et étonnamment, c'est le So What de Miles Davis qui sont censés jouer sur cette pièce, mais c'est totalement inaudible. Et ça a été enregistré ces bandes magnétiques qui ont été sauvegardées à l'ORTF. Par contre, les performances qui ont été données les 9 et 10 juin 1963 sur la scène du théâtre Récami à Paris ont disparu. Donc il reste juste les bribes du quintet trompette, trombone, batterie et la contrebasse de Luigi Trussardi et la trompette, bien sûr, de Chet Baker.
Et donc Terry Riley qui fait une sorte de mix de tout ça, donc on va pouvoir s'en rendre compte avec le volet numéro 3 de musique For the Gift, en tout cas ce qu'il en reste. Et c'est un disque qui avait été édité la première fois par la Cortical Foundation, qui doit être désormais défunte, et qui a été réédité par Elysian Field avec pas mal de pièces des débuts de Terry Riley. On écoute donc ce Music for the Gift. voilà comment Terry Riley, le chanteur des décalages sonores, a inventé le remix en quelque sorte. Avec tout d'abord le quintet de Chet Baker, avec aussi un récitant d'ailleurs pour ses perfs de Paris de l'été, enfin du printemps 1963, qui sont donc sur ce disque Music for the Gift, en tout cas ce qui a été sauvé de ses perfs. Et donc là, You're No Good, qui date de 1967, de novembre 1967 je crois. Et donc je crois que c'est un patron d'une discothèque qui avait proposé à Terry Riley, qui était alors stationné à New York, de remixer ce titre d'un obscur groupe de R&B. Et donc ça donne cette pièce assez étonnante, qui dure une vingtaine de minutes, voilà, donc avec beaucoup de déphasage. Là on a entendu plutôt la première partie qui n'est pas trop déphasée, à part le démarrage avec le décollage de Moog, et puis à la fin de la séquence aussi ça remix sec aussi avec des sons électroniques assez dissonants, voilà. Donc et puis on disait hors antenne avec mon invité Eric Dehay que ça nous faisait penser aussi aux expérimentations sonores de Monsieur Steve Reich, à peu près à la même époque.
Moi je pensais à It's Gonna Rain, qui date de 65, je crois, 66. C'est des. Tu parlais de déphasage, où c'est. Des enregistrements de voix qui sont découpés, répétés sur plusieurs pistes, disons, même si c'était pas des pistes justement, c'était des ré-recordings, je crois, au niveau de la technique, ça doit être comme ça, ouais. Et qui crée un déphasage des voix, et dans la répétition ça crée de nouvelles, c'est le principe que met en place Steve Reich, qui développera ensuite, par la suite, au piano, plus sur des instruments, c'est-à-dire un déphasage durant la répétition qui crée des sons qui finalement par des effets psychoacoustiques précis, comme aurait dit Daniel Coe.
Notre maître à tous.
Notre maître. Comment créer des sons qui finalement n'existent pas réellement.
Enfin, qui ouvrent les portes de la perception.
Voilà. Voilà, ça c'est bien.
Ok, donc là c'est une pièce qu'on retrouve aussi grâce au bon soin de la Cortical Foundation vers 2000, qui avait édité cette pièce. Je me suis dit que ce serait pas mal d'enchaîner entre You're No Good avec Poppy No Good, même si apparemment la parenté n'est pas avérée, puisque je crois que c'était le surnom que lui donnait la propre fille de Terry Riley à son Poppy, voilà. Donc Poppy No Good qui est une pièce qu'il a pas mal jouée lors de séances d'improvisation, à partir de 66-67. Donc là je vous propose d'écouter la version qui se retrouve sur le fameux coffret The Early Gurus of Electronic Music, qui était sorti aux éditions Ellipsis Art vers 2000, donc qui retrace pas loin de 35 ans de musique expérimentale et contemporaine entre 48 et 1980. Et donc c'est une pièce qui a été enregistrée live au Philadelphia College of Art, donc entre 10h du soir et 6h30 du matin, puisque c'est à peu près à ce moment-là aussi que Terry Riley commence à donner des concerts qui sont plutôt des concerts où les gens ramenaient leur sac de couchage, ce genre de choses, dont l'esprit très très psychédélique de l'époque. Et là on le retrouve non pas sur bande mais sur sax et bande avec tape delay. Donc on écoute ce Poppy No Good de Terry Riley.
Thank you.
de trance de Terry Riley à l'honneur dans l'asile le plus sûr cette semaine à l'occasion de la sortie de ce livre de Jean-Louis Talon, Terry Riley, figure libre. On entendait deux pièces plutôt de circonvolution et d'improvisation de Terry Riley. Tout d'abord au sax soprano. C'est vrai qu'il avait été initié à cet instrument par son ami Lamonté Young et aussi par l'écoute assez forcenée, je pense, de la musique de John Coltrane que lui avait fait découvrir aussi Lamonté Young. Et donc un extrait du Poppy No Good en version édite sur ce coffret The Early Gurus of Electronic Music qui était enchaîné avec cette pièce Untitled Organ sous-titré 1964-1966 qui avait été enregistré et performé dans son propre loft de New York au mois de novembre 1966 entre le 4 et le 5, donc dans la nuit, je pense. Premier all night concert de Terry Riley dans son loft new-yorkais de Grant Street, et une pièce qu'on retrouve d'ailleurs sur le premier disque qui était sorti historiquement de Monsieur Riley qui s'appelait Read Streams, donc sur la façade Untitled Organ qui était un petit peu déglingué. On entendait d'ailleurs les touches qui s'entrechoquaient, un orgue un peu vieillot et un peu désingué. Et donc sur la face B de ce vinyle aux éditions Mass Art Incorporated, Dorian Reeds, donc qui est une pièce là pour le coup plutôt avec instrument avant. Voilà, donc c'est le début, on pourrait dire le début d'une longue série pour Terry Riley de ses perfs un peu all night long sur lutherie, clavier électronique avec bande, ce genre de choses, et tape delay. Donc un style qui va commencer à beaucoup jouer à droite à gauche hein, à partir donc de 66 jusqu'à quasiment la fin des années 70. On va peut-être pouvoir en avoir un aperçu avec ce titre qui est peut-être le disque qui a marqué aussi une génération, ce Rainbow in Curved Air qui était sorti en 1969 aux éditions Columbia, qui avait édité aussi le INSEE préalablement en 1968. Donc le Rainbow in Curved Air était sorti en 1969, si tu veux.
Oui, c'est ça qui est assez étonnant quand même pour des musiques qui viennent de la marge expérimentale, enfin de musique contemporaine peu faite pour être diffusée à grande échelle, disons. Et donc oui, c'est ce Rainbow in Curved Air est sorti sur CBS dans la collection sous-label Columbia Masterworks, hein, où il y a eu plusieurs disques comme ça. Est-ce qu'il y a eu un Steve Reich, je sais pas si dit, mais il y a eu d'autres disques comme ça que de musique.
Il y a eu des disques un peu de compilation avec différentes pièces de mémoire aussi. C'est David Berman, hein, je crois, qui était à l'origine de cette série qui s'appelait Music of Our Time. Et il y a eu une trentaine de références, étonnamment, et qui se sont bien vendues, semble-t-il, à l'image de ce Rainbow. Qui est assez emblématique de l'époque et de ses premières années aussi où Terry Riley commence à se faire connaître mondialement, n'est-ce pas? Donc c'est un disque qui a, je pense, marqué un peu aussi toute la...
Un disque écoulé à 12 000 exemplaires, nous renseigne Jean-Louis Talon, ce qui est quand même pas mal. C'est pas c'est pas on n'est pas dans le tube encore en termes de chiffres, mais c'est quand même des chiffres de vente assez élevés pour ce type de musique.
De musique, ouais, c'est clair.
Donc deux pièces hein, sur voilà le Poppy No Good and the Phantom Band qui est sur la face B et ce Rainbow in Curved Air qui permet de voir un peu le style très débridé de Terry Riley avec ces différentes lignes harmoniques qui se superposent dans une danse assez psychédélique et donc un disque qui a été pas mal écouté je pense par la communauté hippie hein, qui a commencé à aller voir régulièrement Terry Riley aussi dans ses frasques sonores live. Juste pour vous dire aussi que CBS Columbia a prévu une réédition à l'occasion c'est l'année des 90 ans de Terry Riley, on a oublié de le dire aussi, donc il vient de souffler ses 90 ans au mois de juin et donc CBS Columbia va sortir un coffret un peu rétrospectif, enfin plus exactement on va ressortir les disques qui sont sortis à l'origine, je crois qu'il n'y a quasiment pas d'inédits mais de manière assez peu chère, donc voilà, donc ça va sortir à la rentrée prochaine. Mais là on va écouter ta version CD.
Ouais, un CD que j'ai dû acheter dans une boutique d'occasion il y a fort longtemps étant étudiant
et qui passe toujours voilà.
Mais oui, mais c'est ce que je te disais Antoine, c'est des bien épais.
Incroyable. Donc on va écouter un petit bout de ce Rainbow in Curved Air qui fait pas loin de 18 minutes. On écoute donc Terry Riley. Thank you. sur dans l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz avec la virtuosité de Terry Riley sur ses claviers électroniques avec déphasage. Je trouve qu'il y a une vraie virtuosité d'ailleurs pour ses lives qu'il a donné pendant une bonne dizaine d'années, parce qu'il n'utilisait pas de séquenceur ou de mixage multipiste, il faisait tout lui-même en direct, avec différentes lignes rythmiques superposées qui s'entrecroisaient, un petit peu comme en musique baroque d'ailleurs, et on retrouve un peu le sens de l'improvisation libre qu'il avait acquis aussi en jouant peut-être du ragtime dans les bases militaires, les clubs, et aussi en jouant et en apprenant les ragas indiens. Voilà, donc on a démarré avec un petit bout du Rainbow in Curved Air qui l'a rendu assez célèbre de par le monde.
En tout cas, dans le milieu des musiciens, quoi. Enfin, ouais. Kraftwerk, Gong, ce disque, il n'y aurait pas eu Tubular Bells de Mike Oldfield, qui s'est carrément inspiré
de Rainbow in Curved Air. Et puis c'est ce qui lui a aussi ouvert les portes du grand public, enfin de la jeune génération qui commençait à pas mal se déplacer en concert quand il savait que je sais qu'il y a eu des concerts par exemple à Château-Vallon milieu des années 70 où les gens faisaient 500 bornes ou 1000 bornes pour aller voir Terry Riley. Il a fait pas mal de perfs pendant une bonne douzaine d'années dans cet esprit là et d'ailleurs on a terminé on a enchaîné le Rainbow In Curved Air avec ce disque The Last Camel in Paris que tu nous as amené Eric, qui a été enregistré au théâtre Édouard VII le 10 novembre 1978. Il y a eu deux date à suivre. Alors il y a une petite autocollant dans le disque qui met The Culmination of a Decade of Solo Organ Concert. Donc c'est un petit peu l'une des dernières perfs qui referme un peu ce parcours et cette décade de...
Oui, ce serait The Last Camel in Paris. C'est a priori, ce serait le dernier concert dans la lignée des All Night Concerts donné par Terry Riley dans cette configuration-là en long solo à l'orgue. Qu'il fait depuis pratiquement une dizaine d'années là en fait et où l'idée c'est de mener le public dans un état de conscience modifié dans une forme d'extase mystique par la musique sans forcément avoir besoin de prendre de substances, même si j'imagine que ça pouvait aider à l'époque et même voilà.
Je crois que Terry Riley ne se cachait pas non plus de l'usage de certains psychotropes, mais.
Et donc, en 78, lui décide d'arrêter ce type de configuration de concert. Et on peut en parler tout de suite. Donc, on voulait. Après lui, il va se lancer plus dans l'étude et l'enseignement des musiques indiennes, jouer avec Pandit Pranath dans les années 80 et lui-même enseigner la musique indienne au Mills College d'Auckland. Et se faire beaucoup plus discret au niveau discographique et scénique après ce disque.
Et la décennie des années 70, il a aussi pas mal participé à des films, à faire la musique, les bandes-son de films. Alors il y a eu des films plutôt expérimentaux, puisqu'il était assez proche aussi des milieux artistiques de vidéastes et de plasticiens américains. Et puis aussi des films peut-être un peu plus grand public. Et donc il y a deux bandes-son notamment qui ont été un peu conservés et notamment qui ont fait l'objet de disques qui étaient sortis je crois chez Philips. Donc c'est les fameux disques, les fameux films Les yeux fermés et Lifespan dont tu peux sans doute nous parler.
Lifespan, je ne me souviens pas plus du nom du réalisateur, mais je me souviens de l'acteur principal qui ne rien de moins que Klaus Kinski dans toute sa grandeur et son effervescence, qu'il joue le rôle d'un docteur qui fait des expérimentations assez bizarroïdes. Le film en lui-même.
C'est un thriller, je crois. Ouais, c'est ça.
Oui.
C'est Alexander Whitelaw, voilà, le réalisateur.
D'accord.
C'est je ne l'ai pas vu, par contre.
Et j'avais trouvé en DVD hors zone, enfin, okay. Les trucs que j'avais réussi à le lire sur voilà. Et le film en lui-même n'est pas non plus, c'est plutôt un peu film de série B. Et c'est vrai que la musique est quand même nettement, enfin, plus intéressante que le film lui-même, ouais. Même si Klaus Kinski reste toujours sympathique à voir.
Hein. Enfin, sympathique, je ne sais pas si.
Sympathique, c'est peut-être pas le mot, oui, effectivement.
Et donc, Les Yeux Fermés, c'était un film de 72 de Joël Santé.
Je peux toujours trouver ça.
Klaus Kinski. Oui, bien sûr. C'est vrai que sa fille parle souvent de son père en disant qu'il est très, très. C'était très affable. Et donc Lifespan, donc Les Yeux Fermés, c'est 72, film de Joël Santoni, et Lifespan, donc c'est un film de 74, et donc la bof, hein, comme on dit, elle est sortie en 1976 chez Philips, ça a été réédité en un CD simple, et on va passer bah, peut-être le morceau qui sort du lot de ce Lifespan, le fameux morceau In the Summer, qui est vraiment particulièrement sublissime. On écoute donc cet extrait de Lifespan dans l'asile le plus sûr.
Toujours dans l'asile le plus sûr, avec cette séquence qui a été coupée sans que je... Voilà, c'est comme quoi on pensait peut-être chanter cette pièce du Kronos Quartet jouant le G-Song de Terry Riley, en fait, qui s'est elle-même chantée. Donc, G-Song, qui était une pièce qu'on retrouvait sur ce même disque qu'on écoutait en début de séquence, Lifespan, sous-titré Le secret de la vie, qui était sorti chez Philips. Et donc, G-Song joué par le Kronos Quartet, puisque Terry Riley a fait la rencontre d'un des membres fondateurs du Kronos, David Harrington, c'est ça, donc...
Oui, je disais tout à l'heure qu'en fait, après, c'est l'Online Concert, fin 70, il a arrêté, et il a commencé à enseigner la musique indienne au Mills College d'Auckland, et c'est en ce Mills College d'Auckland qu'il a rencontré David Harrington du Kronos Quartet, fondateur du Kronos Quartet.
Et dans le bouquin de Jean-Louis Talon, il est très bien raconté en fait ces anecdotes où en fait le Kronos se répétait. Enfin, ils avaient une résidence donc au Mills College qui les sortait un petit peu de la mouise, hein, parce qu'autrement ils jouaient dans des restaurants, ce genre de choses avant. Et donc David Harrington, en voyant arriver Terry Riley qui venait jeter une oreille, il a vu un peu son compositeur phare type Haydn ou ce genre de choses. Enfin voilà. Et donc il a demandé écrit pas le jour même, mais le lendemain, il a écrit à Terry Riley. Mais le problème, c'est que Terry Riley voulait pas écrire pour Quatuor Accord, donc il l'a harcelé pendant pas mal de mois. Et il a fini par le décider à écrire pour eux. Et donc il y a une collaboration assez fructueuse qui en est suivie, puisque c'est plus de 30 ans de musique ensemble, une foultitude de Quatuor Accord. Et en général enregistré, enfin en général plutôt pas enregistré, mais répété et travaillé dans la ferme de Californie de Terry Riley. Mais l'anecdote qui est assez amusante aussi, c'est que Riley raconte que en fait il a eu un mal de chien à écrire la musique, puisque c'est vrai qu'il s'était plutôt il sortait de 15 ans d'improvisation entre le sax avec les délais, l'orgue électrique et aussi le raga. Donc c'était un peu revenir au bureau pour écrire la musique, lui qui jouait plutôt en tailleur pendant des années et à l'oreille. Voilà, donc il a passé un été assez épouvantable, l'été 1980, pour enregistrer ses premières pièces qui se retrouvent d'ailleurs sur le disque Cadenza On the Night Plane, qui est la première livraison de pièces de Quatuor, qui est sortie en 1985, donc de Monsieur Terry Riley. On aurait pu consacrer une émission entière d'ailleurs à l'esprit plus classique contemporain de Riley, puisqu'à partir de là il va écrire pas mal de choses en dehors des Quatuors aussi. Mais on s'est dit qu'on allait plutôt passer un de tes disques phares en ce qui concerne la musique de Monsieur Riley, cher Eric. Il s'agit du fameux disque Atlantis Nat.
Donc, je vais essayer de faire une synthèse magnifique. Donc, quand il commence à les renseigner au Mills College d'Auckland, où il a rencontré David Darrington du Kronos Quartet, Monsieur Terry Riley a amassé un pécule assez honorable de droits d'auteur avec la vente de ses disques INSI et ses albums sur CBS pour s'acheter un ranch, le ranch Shri Moonshine Ranch, près de San Francisco. Et il créera beaucoup plus tard son propre label, le label Shri Moonshine, sur lequel il a publié l'album Atlantis Nat.
Alors c'est vrai que moi j'appelais ça une ferme parce qu'il avait des chèvres, des poules, mais c'est plutôt un ranch.
Bon, il appelle ça un ranch, moi.
Et donc là, c'est la première sortie de son propre label, donc un disque particulièrement introuvable, qui est très beau d'ailleurs.
1000 exemplaires, il avait publié 1000 exemplaires quand ça avait été édité. Je m'étais précipité pour le commander.
et un disque qui a été enregistré notamment grâce aux bons soins des gens du GERM de Marseille. Luc Martinez notamment, les gens qui faisaient des expériences acousmatiques sous l'eau, qui ont été enregistrées. Ces différentes pièces qui sont assez... c'est un disque qui est très très significatif dans la carrière de Terry Riley, parce que c'est un florilège de pièces en fait, avec du solo, de la voix, du piano, puisqu'il s'est remis à jouer du piano un peu plus tard aussi, hein, donc il s'est acheté.
En fait, ça s'inscrit beaucoup dans la période où en fait il participe au festival Manka Nice, si je ne m'abuse,
oui,
le festival Manka,
je sais pas, je dis Marseille,
de 92 à 98, où en fait Terry Riley se rend compte plus ou moins à ce moment-là qu'il considérait ses activités de chant, d'improvisation au clavier et de composition comme des choses relativement séparées, et que finalement il se rend compte que ça forme un tout. En fait, c'est ce qu'il explique dans une interview qu'il donne dans l'ouvrage Nouvelle musique de Stéphane Le Long. Et c'est ce Terry Riley qui prend conscience de la complétude des différentes activités liées à la musique, qui l'incite, enfin Michel Redolfi incite Terry Riley à enregistrer ses travaux du moment qui considère qu'ils sont des choses assez inédites et très variées. Et donc ça a donné ce disque qui reflète énormément d'aspects différents des possibilités de création de Terry Riley.
À l'image de ce Emerald Runner sur lequel on va entendre la douce voix de Terry Riley.
Thank you. came sweeping by, carried along by the sound stream, receding thoughts multiply. Surround them, dance on the winds of the sun. Thank you. the pilot flying once more in his way. They were left no direction for landing.
Emerald Runner, ce titre du disque Atlantisna de 2002 de Terry Riley, voilà donc qui faisait pas mal penser à du Robert Wyatt au niveau du timbre d'ailleurs. On salue notre ami Jackie s'il nous écoute. Et juste pour vous dire aussi que ces dernières années, Terry Riley s'est résolu à revendre son ranch de Sri Moonshine pour s'installer au Japon. À partir de 2020, il était confiné d'ailleurs.
Des suites du Covid en fait. Enfin, il y a eu le fait aussi qu'il ait perdu
son épouse.
Femme,
ouais. Et donc il s'est installé dans la préfecture de Yamanashi, juste en face du mont Fuji. Voilà donc ce qui va très très bien à la quiétude du monsieur et à son âme aussi très pacifique s'est éloigné des États-Unis, ce qui n'est pas très étonnant vu le contexte aussi géopolitique de ces dernières années. En tout cas donc il vient de fêter et de souffler ses 90 ans. Voilà donc on vous rappelle ce très très beau livre de Jean-Louis Talon. Terry Riley, figure libre aux éditions Le Mot et le Reste. C'est sorti en juillet, hein, c'est ça, Eric?
Le 27 juin, enfin, c'est en librairie. Voilà. Dans toutes les bonnes librairies.
Très très bonne biographie donc de Terry Riley en français, très documentée, voilà, avec l'iconographie qui va bien également. Je te remercie, Eric. Pour
ce fut un grand plaisir de faire cette émission ensemble.
Oui, donc on a quand même écouté pas mal de Terry Riley. On a traîné nos guêtres sur la musique de Terry Riley.
Ouais, un peu quand même. Mais...
On se quitte avec une pièce plutôt d'obédience, on va dire, indienne. Terry Riley en compagnie de Sarah Miyamoto, qui n'est autre que sa disciple d'ailleurs au Japon pour interpréter la musique d'inspiration Pandit Pranath. Et il y a un titre qui est sorti aussi à l'occasion des 90 bougies du monsieur, enregistré au mois de juin, sorti le 24, très très exactement le jour de son anniversaire. Une pièce d'une dizaine de minutes qui a été enregistrée, son dernier titre à ce jour, enregistré pour l'organisation à but non lucratif Red Hot, qui s'occupe notamment des gens qui ont contracté le sida et qui est une organisation non lucrative, voilà, donc qui est basée du côté du New York. Il avait déjà produit je crois quelques morceaux l'an dernier pour cette organisation, et donc il récidive avec ce Komal Rechab Asavari qui fera une très très belle conclusion à l'émission de cette semaine pour le décollage à la verticale ou à l'horizontale comme vous préférez. Merci Eric et bonne nuit.
Merci, bonne nuit.
Bel été et à la semaine prochaine.
Ah.
Ah.